En tant que co-organisateur de ce colloque de DPC Santé Université, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence inaugurale qui suit notre premier travail en atelier au cours de cette fin d'après-midi. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter Monsieur Frédéric Destrebecq, qui est ici à ma droite et qui est le directeur général de l'UEMS. Et je vais vous expliquer pourquoi nous avons pensé qu'il était important de faire intervenir M. Destrebecq dans le cadre de notre colloque. L'UEMS, il vous l'expliquera en détail lui-même, c'est l'Union européenne des médecins spécialistes, c'est un des plus importants groupes professionnels représentant les médecins, avec d'un autre côté les médecins généralistes et puis l'UEMS pour tous les spécialistes européens. Mais surtout, l'UEMS a travaillé depuis très longtemps sur ce qui s'appelait autrefois la formation continue et qui est devenu le développement professionnel continu il y a bien longtemps, bien avant que la France ne s'y intéresse. Et je pense que M. Destrebecq fera allusion à une convention qui a été et une déclaration qui date de près de 15 ans maintenant et dans laquelle la terminologie DPC, développement professionnel continu, existait déjà. Et souvent, je rappelle cela aux Français qui pensent que c'est une invention de la loi HPST en 2009. Ça n'est pas vrai. La deuxième raison plus profonde, c'est que, vous le savez bien, le DPC est basé sur, au fond, ce qui fait l'originalité du DPC, et notamment dans le cadre des décrets d'application de la loi et de la mise en place que nous connaissons actuellement, c'est de monter des programmes de développement professionnel continu qui associent une part d'acquisition de connaissances avec l'analyse des pratiques. Et l'acquisition des connaissances dans le domaine de la santé peut se faire de différentes façons, par le travail individuel, bien sûr, d'analyse, de lecture d'articles, le travail à plusieurs, tout ça fait partie de méthodes de DPC. Mais, une des choses que les médecins et les professionnels de santé, même non médecins, mais que les médecins en particulier pratiquent le plus en termes d'amélioration de leurs connaissances et d'acquisition de nouvelles connaissances, c'est la participation à des congrès. À des congrès de spécialité en particulier. Et dans ce domaine, les méthodes de DPC, telles qu'elles ont été pour l'instant écrites, sans être pour autant d'ailleurs totalement définitives, mais telles qu'elles existent dans le cadre du document de la HAS, n'intègrent pas les congrès internationaux, et notamment les congrès européens. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment la difficulté de régler les questions de conflits d'intérêts et de participation des industries de santé au financement de ces congrès ou de la partie DPC de ces congrès. Et pourtant, la réalité de la vie, la réalité concrète pour la majorité des médecins spécialistes, c'est qu'une part très importante de leur formation en termes d'acquisition de connaissances, se fait dans le cadre de ces congrès. Il nous a paru donc important de demander à M. Destrebecq quel était le bilan du travail qu'a fait l'UEMS d'une façon générale dans le cadre du développement professionnel continu en Europe. D'autre part, de nous décrire le système d'accréditation des congrès européens qui permettent à ceux d'entre nous qui y participons, mais aussi aux collègues étrangers qui viennent participer à des congrès européens ou même des congrès nationaux dans notre pays, de valider une partie de leur développement professionnel continu. Et à l'époque que nous connaissons bien aujourd'hui, où les échanges de professionnels, et notamment les échanges de médecins, sont de plus en plus importants entre les pays d'Europe, ce sujet me paraissait un sujet de grande importance. C'est pourquoi je donne la parole maintenant à M. Destrebecq.
Bonsoir. Merci beaucoup, Dr. Serini, pour cette introduction. Et je tiens à vous remercier, vous également, Madame le Professeur Bernard, pour l'occasion qui est faite à l'UEMS, via mon intermédiaire, de pouvoir vous présenter nos activités ce soir. Alors, nous avons comme politique à l'UMS de d'abord montrer l'exemple. Donc nous faisons simplement, nous avons pour habitude de faire ce que nous réclamons, nous demandons aux orateurs dans les conférences européennes que nous accréditons, c'est-à-dire de commencer par une déclaration de conflit d'intérêts. Donc, comme le docteur Serini l'a dit, je suis directeur général à l'Union européenne des médecins spécialistes à Bruxelles. Je suis également fondateur d'un bureau de consultance qui a effectué certaines missions pour des organisations de patients ainsi que des groupes ou des sections de spécialité au niveau européen. Donc je vais vous présenter ce soir le DPC en Europe. Je commencerai par une brève présentation de l'UMS, de sa raison d'être, ainsi que de son agenda qualité, dont fait partie la déclaration de Bâle, dont le professeur Serini a parlé il y a un instant. Je dresserai ensuite le contexte européen, tant d'un point de vue législatif qu'au niveau national en matière de développement d'initiatives en termes de DPC et de FMC. Et je présenterai ensuite le Conseil européen d'accréditation créé par l'UMS, dont l'acronyme, un petit peu barbare certes, est l'EACCME, pour sa traduction anglaise. Je passerai ensuite aux critères qui fondent le système, et ce qui m'amènera à la conclusion. Donc je commence maintenant par l'UMS. L'UMS est une organisation professionnelle qui a été créée en 1958, un an après le traité de Rome, et représente actuellement 37 pays de l'Union européenne et de sa région limitrophe. Nous représentons actuellement plus d'une cinquantaine de spécialités via différents groupements, des sections, des groupes multidisciplinaires ou des divisions, ce qui représente à l'échelon des spécialistes individuels environ 1,4 million à l'échelle des pays représentés dans l'organisation. Donc les objectifs de l'UMS sont essentiellement la promotion de la mobilité professionnelle via le développement de standards harmonisés en termes de formation et de qualité des soins médicaux en Europe. À cette fin, l'UMS travaille de manière constante via ses membres nationaux, mais également via ses sections spécialisées, à l'établissement de standards dans les domaines de la formation spécialisée postgraduée, la formation médicale continuée et le développement professionnel continué, ainsi que l'assurance qualité dans la pratique médicale. Et c'est bien entendu ce deuxième élément, FMC-DPC, qui nous intéressera ce soir. Donc l'agenda qualité de l'UMS peut être résumé, en tout cas pour les aspects qui touchent au DPC, peut être résumé par les quelques documents qui ont été listés sur cette diapo. Il y en a d'autres, bien entendu, mais pour ce qui touche au sujet de ce soir, je voulais vous mentionner ces documents-ci, c'est-à-dire la charte sur la formation médicale continuée qui date de 1994, la charte sur l'assurance qualité de 1996, la déclaration de Bâle, dont nous avons déjà parlé, sur le DPC de 2001, la déclaration sur la promotion des soins médicaux adéquats en 2004, et la déclaration de Budapest sur les soins de qualité en 2006. Donc la déclaration de Bâle, qui date de 2001, a défini le DPC comme suit. Le DPC regroupe les méthodes pédagogiques de mise à niveau, de développement et de renforcement de la manière avec laquelle les médecins appliquent leurs connaissances, aptitudes et attitudes dans leurs activités et environnements professionnels. L'UMS considère donc que le DPC est essentiel pour assurer les hauts standards de pratique professionnelle qu'elle défend. Et à cet effet, le DPC est entendu comme englobant la sphère de la FMC, formation médicale continuée, qui n'est considérée que comme théorique. Donc, je vais maintenant vous dresser un tableau de la situation au niveau européen afin de poursuivre cette introduction qui me mènera à vous présenter l'action de l'UMS. Donc, je commence par poser la question de savoir si le DPC n'a jamais été une priorité européenne de la part des institutions. Et de manière très intéressante, les seules dispositions dans lesquelles on a pu retrouver trace de ce terme sont les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la sécurité des patients, qui date de 2009, plan d'action de la Commission européenne sur les personnels de santé, qui date de 2010, la directive sur le droit des patients, qui date de 2011, et la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui vient tout juste d'être révisée et adoptée en octobre 2013. Une première version de cette directive, la version qui vient d'être révisée, datait de 2005, et c'est la première fois que le DPC était mentionné. Mais comme vous pouvez le voir, le DPC ne fait pas l'objet d'une initiative de la part des institutions, ou en tout cas d'une initiative d'ordre législatif. Alors c'est cette dernière directive qui est peut-être la plus explicite quand on parle du DPC dans la législation européenne. Et la directive simplement spécifie que le DPC concerne donc les professions dites sectorielles. Dans le secteur de la santé, elles sont au nombre de 6, les médecins spécialistes et généralistes étant distingués. Il y a ensuite les dentistes, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens. Le DPC est également défini comme couvrant les développements techniques, scientifiques, réglementaires et éthiques. Et la directive, dans sa nouvelle version, donc celle adoptée en 2013, encourage également les États membres à encadrer et à encourager le DPC pour permettre aux professionnels de maintenir leurs connaissances, aptitudes et compétences afin de garantir la sûreté et l'efficacité de leurs prestations professionnelles. Là où cela devient intéressant, et là je cite la directive, c'est que les États membres doivent effectuer cela conformément aux procédures qui leur sont propres. Je vous laisse interpréter ce que cela veut dire. À titre d'exemple, la directive poursuit en indiquant aux États membres l'obligation de notifier à la Commission d'ici janvier 2016 les mesures qu'ils auront prises à cet égard. Et la directive incite également les États membres à échanger leurs informations et les bonnes pratiques, ce qui se fera au sein de ce qu'on appelle le groupe des coordinateurs ou éventuellement au sein d'autres groupes de travail sous l'égide de la Direction générale santé à la Commission européenne. Je tenais à poursuivre la présentation du contexte européen par la présentation des résultats d'une enquête que nous avons effectuée au niveau de l'UMS. C'est une enquête que nous avions pour habitude de faire de manière annuelle, en simplement demandant un retour d'expérience de la part des associations nationales qui collaborent dans le cadre du système. Je vous expliquerai comment après. Mais simplement pour connaître un petit peu quels étaient les développements et les tendances concernant le DPC au niveau national. La dernière édition de cette enquête vient juste d'être réalisée et a été présentée lors de notre conférence que nous avions organisée à Bruxelles en février. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif était simplement d'explorer la situation réelle du FMC-DPC en Europe. Et ce faisant, nous avons créé un profil pour chacun des pays interrogés. Donc, les pays étaient au nombre de 34. Les 29 pays membres de l'Union européenne et de l'espace économique européen, c'est-à-dire la Suisse en plus de l'Union européenne, ainsi que l'Arménie, le Canada, les États-Unis, Israël et la Turquie. Alors, une première question que nous avons posée, c'était la condition du FMC-DPC en Europe. Et les réponses que nous avons obtenues, sur les 34 pays, 21 ont rapporté un système obligatoire. Le chiffre entre parenthèses mentionne les pays membres de l'Union européenne. Donc 21 pays dans le cadre de l'enquête, 18 au sein de l'Union européenne, et mentionne un système volontaire en jaune sur la carte dans 13 pays, tous membres de l'Union européenne. La deuxième question concernait le lien entre FMC-DPC et l'exercice professionnel. 8 pays, tous membres de l'Union européenne, ont annoncé avoir introduit une procédure de renouvellement de l'autorisation d'exercice qui était directement liée au DPC, ici en orange sur le graphe. Une autre question concernait la durée de l'échéance du cycle de FMC-DPC. Alors, je vous laisse admirer la place de la France, qui fait partie, avec les pays nordiques, des 6 pays qui n'ont pas de cycle de FMC-DPC. L'autre échelle de couleur mentionne des degrés variables entre 3 à 7 ans, 7 ans étant l'exception qui concerne la Slovénie, et la majorité des pays ayant un cycle de 5 ans, qui est la fracture allant de l'Irlande à la Bulgarie sur notre carte. Alors, une autre question concernait les sanctions en cas de non-conformité de ce cycle de FMC-DPC. 16 pays ont rapporté ne pas avoir de sanctions. Et dans les cas où une sanction était imposée, elle se fait de manière tout à fait graduée. C'est-à-dire que ça commence par un rappel, il y a ensuite des mesures de coercition financière, ensuite des mesures disciplinaires, et éventuellement une perte du droit à l'exercice, mais qui est extrêmement rare. Au niveau du financement du FMCDPC, une très large majorité des pays, 29 dans notre enquête, 24 au niveau de l'Union européenne, donc en jaune sont les 24, annoncent un financement essentiellement par les médecins. Et dans certains cas, d'autres contributeurs interviennent, mais bien souvent en combinaison avec l'intervention directe du médecin pour assister aux événements de FMCDPC. Alors les activités reconnues sont principalement des congrès ou des séminaires. Viennent ensuite les modules de formation en ligne, les présentations lors de séances de formation, l'apprentissage individuel ainsi que les publications scientifiques. Sur base de ces résultats et sur base des résultats des enquêtes précédentes, nous avons pu dégager certaines tendances. La première d'entre elles, c'est que le FMCDPC devient davantage obligatoire dans un nombre grandissant de pays au sein de l'Union européenne, ou en tout cas dans la région étudiée. Les crédits de formation sont de plus en plus largement utilisés pour le renouvellement des cycles. Et à cet égard, les crédits européens tels que introduits par l'UMS s'avèrent extrêmement utiles. Les sanctions, telles que je le disais, quand elles existent, sont implémentées de manière graduelle. Le financement est essentiellement assuré par les médecins directement et ou par leurs employeurs. Et les activités reconnues ressortissent d'une très grande variété. Donc le tableau que je viens de vous dresser vous permet un petit peu de situer le contexte dans lequel l'UMS a été amené à prendre l'initiative de la création du Conseil européen d'accréditation de FMCDPC. Et, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est un acronyme un petit peu barbare, le ACCME, pour la traduction anglaise, le European Accreditation Council for CME. Ce conseil a été créé par l'UMS en 1999, avec pour l'objectif de faciliter l'accès au FMCDPC pour les médecins européens, en ce sens que le système leur permet d'être mobile, de traverser les frontières pour accéder aux formations qu'ils jugent utiles. Le système, pour ce faire, harmonise les procédures, crée un seul point d'entrée et, par là même, évite la duplication du travail entre les autorités nationales. L'établissement de procédures et de critères communs contribue également à l'amélioration de la qualité du FMCDPC en Europe, dans la mesure où ces critères sont venus s'imposer aux pays qui n'en avaient pas, ou en tout cas ont pu servir d'inspiration pour que ces pays s'engagent eux-mêmes dans l'établissement de critères nationaux. Donc, au-delà de ces critères, le système s'appuie également sur les accords de coopération avec les autorités nationales, tant en Europe qu'également en Amérique du Nord, j'y reviendrai tout de suite. Donc, les champs d'accréditation de la CCME ou les standards qui existent actuellement sont essentiellement de deux ordres. Le premier, c'est l'accréditation des congrès médicaux, ou ce qu'on appelle en anglais les Live Educational Events. Je pense que vous parlez plutôt d'événements présentiels, pour lesquels nous avons adopté des critères en 2012, qui sont entrés en application en 2013, qui était une des très grandes révisions des critères d'évaluation que nous avons mis en œuvre récemment. Le deuxième champ d'accréditation de l'ACCME concerne les modules en ligne, donc l'e-learning, pour lesquels les critères ont été révisés en 2011. Pour l'instant, des travaux sont en cours pour étudier la possibilité d'également étendre le champ de l'activité de l'EACCME, également à l'accréditation des publications scientifiques, des présentations lors de colloques, et également d'introduire une notion assez intéressante qui nous a été suggérée par l'une ou l'autre spécialité, c'est l'introduction d'un critère de qualité dans les accréditations, c'est-à-dire que certaines activités, en étant plus intensives, ou en étant plus participative, mériterait d'être reconnue d'une manière différente que les activités purement classiques ou théoriques. Alors, les accords bilatéraux que l'UMS et les ACCME ont conclu avec les autorités nationales, avait pour objectif simplement de résoudre un problème relativement concret. Si je prends l'exemple de ces quelques pays dont j'ai mis les drapeaux sur la diapo, simplement si on veut imaginer un système de transposition ou de reconnaissance de l'accréditation entre eux, il faudrait simplement qu'ils commencent à signer des accords bilatéraux les uns avec les autres. Ce qui vous donne une idée de la complexité d'un tel système avec ces quelques pays. Imaginez 28 États membres de l'Union européenne, 37 pays membres de l'UEMS. Donc la solution que nous avions préconisée est simplement que l'UEMS soit le partenaire de ces accords bilatéraux, ce qui permet quelque part de servir de chambre de clarification, c'est un petit peu le terme utilisé anciennement, afin de pouvoir assurer cette portabilité et cette reconnaissance de l'accréditation entre ces différents pays. Alors les accords de coopération que nous avons conclus avec les autorités nationales définissent leur rôle dans l'évaluation des congrès, car elles sont bien centrales à cet égard dans l'accréditation que nous octroyons aux congrès médicaux. Elles assurent, dans un deuxième ordre, la reconnaissance de cette accréditation au niveau national, comme je le disais tout à l'heure, par la portabilité des crédits. Ces crédits qui sont introduits dans ces accords, donc la notion de crédit européen ou l'acronyme que nous avons créé, ECMEX, pour European CME Credits, crédit européen de FMCDPC. Les accords instituent également un comité consultatif de FMCDPC, dans lequel nous invitons au moins une fois par an toutes les autorités nationales, ainsi que tous les boards spécialisés qui interviennent dans l'évaluation des demandes que nous recevons, afin de produire des recommandations ou de faire des retours d'expérience sur les critères que nous avons, sur la procédure que nous avons, et d'éventuellement l'améliorer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons également des accords de reconnaissance internationaux avec deux pays principalement, les États-Unis via l'Association médicale américaine et le Canada via le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Alors, ces accords, pour faire assez bref, reconnaissent les crédits européens et américains comme étant équivalents, enfin canadiens également, comme étant équivalents, et assurent également le principe de territorialité, en ce sens que le ACCME n'ira jamais accréditer un événement qui se tiendra au Canada ou aux États-Unis, et inversement, les Canadiens et les Américains ne viendront jamais accréditer un événement qui se tiendra en Europe. Alors, le fonctionnement du système tel que conçu par le ACCME fonctionne selon ce principe-ci. Nous recevons les dossiers de demande, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nous avons créé un point d'entrée, afin de clarifier aussi la situation pour les organisateurs de congrès médicaux, et dans le cas de l'e-learning, pour les producteurs de modules en ligne. Ce que nous faisons au niveau de l'UEMS, après avoir vérifié la qualité du dossier, nous le transmettons immédiatement à l'autorité nationale du pays dans lequel l'événement a lieu, ainsi que à la section ou au board de la spécialité de l'événement. Ces deux groupes d'évaluateurs nous communiquent ensuite leurs réponses. Et si elle est doublement positive, nous publions dès lors un certificat d'accréditation qui contient le nombre de crédits de formation et qui peut dès lors être reconnu dans les différents pays avec lesquels nous avons des accords. Le système prévoit également une procédure d'amendement, en ce sens que si un événement mérite d'être amélioré ou un module e-learning mérite d'être amélioré, n'est pas tout à fait assez mauvais pour être rejeté, mais pas assez bon pour être accrédité, nous avons un mécanisme par lequel nous retournons vers l'organisme ou le développeur en demandant quelques changements qui doivent ensuite être faits pour pouvoir ensuite donner l'accréditation. Et le système prévoit également un mécanisme d'appel pour le demandeur qui peut toujours réclamer davantage d'informations ou demander une reconsidération de son dossier. Alors le système se base sur des critères qui sont déclinés selon 7 axes sur lesquels je vais m'étendre quelque peu. Le premier axe étant le participant, en ce sens que les demandes qui doivent nous parvenir doivent spécifier le public visé par les événements, les besoins pédagogiques de ce public, les droits et responsabilités tant du public qu'éventuellement des patients qui pourraient figurer dans le contenu du programme. Le participant doit également faire preuve d'une certaine activité lors de l'événement et doit également être en mesure de donner son feedback. Je suis désolé pour cet affreux franglais. Le deuxième axe de nos critères concerne l'activité en elle-même. Donc l'activité doit être internationale, doit avoir des objectifs clairement définis. Les méthodes et les matériels pédagogiques qui seront utilisés ou employés durant l'activité doivent être clairement expliquées. L'activité doit être valable et indépendante scientifiquement et rencontrer les objectifs tels que mentionnés précédemment. Alors l'organisateur ou l'organisme qui organise les congrès ou qui développe les programmes doit se présenter et doit également bénéficier chez nous ou auprès des autorités nationales d'un historique favorable ou positif au niveau de ces demandes précédentes. Les responsables du contenu dans le cadre des programmes qui nous sont soumis pour accréditation sont également soumis à examen dans la mesure où nous évaluons la composition des comités scientifiques et des comités d'organisation. Nous évaluons également la qualité des orateurs et nous requérons également que le contenu de la formation se déroule sous la responsabilité d'un médecin en plein exercice. Les questions éthiques sont également évaluées. Nous parlions tout à l'heure de la gestion des conflits d'intérêts. Je pense que ça a animé pas mal d'ateliers précédemment. Le financement de l'activité ou du module doit également être spécifié. Quelles sont les sources ? Le contenu ne peut pas avoir été influencé. Le contenu doit être conforme aux règles légales, réglementaires ou sectorielles, indépendant de tout biais, ainsi que vierge de toute publicité. Alors, le mécanisme d'évaluation interne du développement de programmes ou de modules e-learning est également évalué. Donc, on entend par là l'évaluation qui a été effectuée par le comité d'organisation de l'événement, ainsi que celle qui doit normalement être initiée par l'organisme qui met en place l'événement. Alors, le dernier axe qui nous permet d'évaluer les demandes est simplement procédurier. Donc, simplement, nous avons des critères concernant la soumission, des critères administratifs concernant la soumission de la demande, des critères concernant la prise de décision. Je mentionnais tout à l'heure le fait que les deux organismes d'évaluation à qui nous transférons la demande doivent donner une évaluation positive. Nous avons également des échéances de temps tout à fait claires et explicites qui doivent être respectées. Nous avons les mécanismes d'amendement et d'appel, tels que je le disais précédemment. Et il est également clairement établi que les décisions que nous prenons revêtent un caractère final une fois ces procédures d'appel écoulées. Donc, en conclusion, je pose la question de savoir pourquoi et pour qui avoir créé une accréditation européenne. Tout d'abord, pour les médecins. C'était le premier axe que l'UMS a voulu défendre dans la création du système, par la création des crédits, des ECMEX, et par l'établissement de standards de qualité sur lesquels ils pouvaient se reposer et dès lors, d'avoir confiance dans les programmes de FMC-DPC qu'ils pouvaient suivre. Ensuite, pour les organisateurs, en ce sens que l'accréditation qu'ils reçoivent confirme la manière dont ils construisent leur programme et confirme la qualité de leur organisme. Pour le FMC-DPC, d'une manière beaucoup plus générale, en ce sens que par l'établissement de critères et par l'encouragement de l'adoption de critères au niveau national, ont contribué à l'amélioration de la qualité du FMC-DPC en Europe. Pour la société, de manière générale également, en ce sens que nous avons établi des critères relativement clairs en termes de transparence et de responsabilité de la part des organismes producteurs de programmes, des orateurs, des comités d'organisation, des comités scientifiques. Et ensuite, last but not least, pour les patients qui sont les premiers à bénéficier de la meilleure formation et du renouvellement des compétences de leurs médecins. Alors, j'ai voulu finir sur une note un petit peu plus légère en vous soumettant quelques images. Je vous ai dressé un contexte relativement obscur ou extrêmement fragmenté, extrêmement difficile du FMCDPC en Europe, où tout un chacun pourrait très vite se retrouver perdu. Je voudrais ici défendre le mérite qu'a eu l'UEMS de prendre l'initiative au niveau de la profession médicale, au niveau d'une organisation professionnelle, et en amenant les organisations professionnelles au niveau national à établir un modèle qui peut très bien être sujet à amélioration, je ne conteste pas, mais en tout cas qui peut servir d'exemple et qui peut servir de repère. Il peut servir de repère, c'est important, et la photo que j'ai prise n'est pas anodine. Ce repère est important pour éviter les écueils et pour également éviter de naviguer à vue. Alors le système que nous avons construit, c'est un système qui doit fonctionner en harmonie, qui doit fonctionner avec une certaine cohésion. C'est pourquoi, par l'établissement de critères communs, l'UEMS, quelque part, donne une partition. Et même si chacun peut choisir l'instrument qu'il a envie de jouer, chacun a des besoins différents, il y a le moyen d'adapter cette partition à votre instrument. Ce qui est important, c'est la cohésion du système au niveau européen. Et je finirai par poser la question de la place de la France dans ce système, essentiellement dans la mesure où il est important, comme je l'ai dit, d'en assurer la cohésion. Et j'espère vous en avoir convaincu. Merci pour votre attention.
Donc la parole est... Merci beaucoup à M. Destrebecq pour cet exposé extrêmement clair, pédagogique. Je dois dire que là, je vous donne le maximum de crédit pour la qualité pédagogique de votre exposé dans cette faculté. Et plaisanterie mise à part, nous avons un peu de temps pour la discussion. Donc, qui veut poser des questions? Oui. Claude Conry.
Oui, bonjour. J'ai peut-être pas été attentif, mais j'ai pas bien compris. J'ai besoin de précision. Européenne, libre concurrence, etc. Hein. Ou si c'est piloté par un organisme, je dirais, officiel, quoi. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ?
Oui, tout à fait.
Voilà, parce que je n'ai pas bien pigé ça.
Non, je vais revenir brièvement sur le slide. Donc, l'Union européenne des médecins spécialistes est une organisation professionnelle qui a le statut d'AISBL, donc d'association internationale sans but lucratif, enregistrée sous droit belge, dans la mesure où elle est établie à Bruxelles, et regroupe les organisations nationales représentantes de la profession spécialisée en Europe. Avec deux catégories de membres, les membres effectifs, membres observateurs. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors en France, c'est...
Je peux vous dire.
Oui.
Je peux vous répondre à cela. Donc, il y a une différence entre les organisations professionnelles et les sociétés savantes. Vous avez bien compris ça. Les sociétés savantes produisent les sociétés ou fédérations européennes de spécialistes ou de non-spécialistes, enfin, de médecins. Et les organisations professionnelles, globalement, ce sont les syndicats médicaux. En France, c'est la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, qui regroupe les représentants de chaque spécialité médicale à l'UEMS. Hein, c'est la CSMF qui... Alors, je peux vous dire, par exemple, que moi, je suis le représentant de ma spécialité à l'UEMS. Et beaucoup d'entre vous qui êtes universitaires connaissez moins ce système que la majorité des libéraux qui le connaissent beaucoup mieux, puisque la part de la représentation des libéraux est probablement plus importante. Ça dépend des spécialités. Certaines spécialités sont purement libérales ou à grande majorité libérale, d'autres sont à majorité hospitalière. Dans mon cas, médecine interne, qui est une spécialité essentiellement hospitalière, c'est pas étonnant que ce soit un hospitalier qui soit responsable. D'autres questions? Oui.
Merci pour votre exposé. Juste une petite question pratique. Si on voulait, par exemple, si je voulais organiser un congrès international, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance pour soumettre l'accréditation ?
Alors, nos critères spécifient qu'il faut avoir rentré un dossier complet à 12 semaines avant l'événement. Alors, dans la mesure où, très souvent, le dossier est incomplet, il y a des frais administratifs à payer, etc., on conseille toujours aux organismes de se tourner vers nous 14 semaines avant leur événement. Et ce délai est justifié essentiellement donc, par la procédure d'évaluation telle que je l'ai démontré, pour laisser simplement assez de temps aux évaluateurs de faire leur travail, de revenir vers les organismes de formation si nécessaire, et bien évidemment, de donner une réponse suffisamment longtemps avant l'événement pour que vous puissiez également l'annoncer à vos participants.
Oui.
Merci. Dans la procédure d'amendement que vous nous avez citée, quels sont les critères que vous retenez qui sont un peu prohibitifs, mais pas complètement, pour demander une procédure d'amendement ?
Oui, typiquement, la procédure d'amendement est justifiée quand un élément de la demande est peu clair. Et un autre pan, donc ça peut être simplement, je veux dire, trivial, donc une demande d'information complémentaire. Mais récemment, on a remarqué une recrudescence des demandes, enfin de l'utilisation de la procédure d'amendement, essentiellement pour le cas de la justification du financement ou des liens entre l'organisme responsable de l'événement et les financeurs. Donc on a utilisé cette procédure dans un grand nombre de cas pour demander quelle était la relation, simplement la relation contractuelle entre les sponsors et les organisateurs. Donc ça je peux vous répondre que cet élément-là, qui est pour nous extrêmement important, a été vraiment soumis à examen très approfondi. Et nous sommes en chemin, je vais dire, vers sans doute aussi une révision de nos critères à ce sujet, afin d'être beaucoup plus explicite. Parce qu'on remarque très souvent que simplement de demander une déclaration de conflit d'intérêt ou de demander comment ce conflit d'intérêt a été géré ou résolu est parfois aussi un peu rébarbatif pour certains organismes. Et donc on se demande dans quelle mesure on ne devrait pas être beaucoup plus explicite ou beaucoup plus directif dans ce que l'on demande dans le cadre de la soumission de demande.
Monsieur Destrebecq, dans le cadre de l'application du DPC en France, bien que les choses n'aient pas été écrites de façon très formalisée à l'heure actuelle, mais enfin la tendance est de dire aux organisateurs de congrès nationaux, il faut identifier au sein de votre congrès des sessions dédié au DPC ou FMC-DPC, un peu comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup de congrès internationaux. Il y a des sessions CMI qui sont identifiées, et il faut que ces sessions soient clairement indemnes, si j'ose employer ce mot, de financement par l'industrie pharmaceutique, etc. Alors, c'est un peu artificiel, parce que l'ensemble du congrès, dans sa totalité, dans sa globalité, ne survivrait probablement pas ou n'aurait pas pu être organisé sans une part de financement par l'industrie pharmaceutique, et tout le monde le sait. Mm-hmm. Mais ça paraît un point extrêmement important. Alors, je voulais vous demander, dans le cadre de l'accréditation et de vos critères européens, est-ce qu'un dispositif de ce type est considéré, ou est-ce que d'ores et déjà, vous avez de telles exigences ?
Oui, tout à fait. Et je pense que vous avez mentionné un élément extrêmement important, c'est que il serait sans doute impossible pour les médecins en Europe de pouvoir poursuivre leur cycle de FMC-DPC sans un soutien privé. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment on s'en accommode et comment on gère cette situation, cet état de fait. Et vous l'avez très bien exprimé, on peut très bien mettre sur pied des congrès internationaux dans lequel on établit une séparation très claire entre ce qui est purement commercial et les sessions qui ont un but scientifique. Et nos critères sont extrêmement explicites à cet égard, c'est-à-dire que nous exigeons que le contenu scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit indépendant dépourvue de toute influence de la part des sponsors ou autres, et valide scientifiquement, et également vierge de publicité. Donc je pense qu'en établissant ce critère-là, on répond à la tension en présence, c'est-à-dire comment bénéficier d'un soutien de la part de l'industrie, d'un soutien privé, mais également de garantir l'indépendance et la validité des formations.
Merci, oui. Professeur Didier.
Oui, une petite précision. Comment choisissez-vous vos évaluateurs quand on vous soumet un dossier ?
C'est une excellente question. Et je me dédouane facilement dans la mesure où nous faisons confiance à nos partenaires, c'est-à-dire aux autorités nationales. Donc les autorités nationales s'engagent dans les accords que nous leur soumettons à nommer leurs évaluateurs, que ces évaluateurs répondent également à certaines exigences en termes de conflit d'intérêts également, parce qu'ils pourraient également, dans le cadre de certaines évaluations, avoir été impliqués dans des projets de recherche de la part de tel ou tel labo, etc. Donc il y a une série de critères qui sont également édictés, mais c'est à l'autorité nationale, dans le cadre de l'évaluation par le pays, de nommer ce corps d'experts. Et la deuxième composante, ce sont les sections et les boards de l'UMS qui, eux, également répondent à cette exigence en nous nommant des experts à qui nous transmettons les demandes. Alors, il y a juste une toute petite précision par rapport à l'e-learning, mais bon, ça, c'est une question de détail. C'est que là, nous faisons appel à des experts individuels qui sont également nommés par ces deux entités.
Je vais vous donner la parole. Je voulais simplement faire une toute petite explication de texte aussi, parce que la question de Claude Conry tout à l'heure me laisse supposer que tout le monde n'est pas tout à fait au fait de la façon dont ça se passe à l'UEMS, etc. Vous avez fait, M. Destrebecq a fait plusieurs fois allusion au terme de board. Donc en gros, un board, c'est, alors pour l'UMS, c'est quelque chose de très précis d'ailleurs, mais enfin bon, c'est une sorte d'alliance et de regroupement, de comité commun entre les représentants de la spécialité au sein de la sous-section du UMS et les représentants de la société savante européenne correspondante. Autrement dit, c'est là toute la profession qui est représentée, dans sa partie, je dirais, académique, en gros, du côté de la société savante. Et ces boards ont différentes missions, mais M. Destrebecq en parlera beaucoup mieux que moi. L'une d'entre elles étant celle-ci, et l'autre beaucoup plus importante, enfin, en tout cas dans les objectifs et dans le travail accompli, d'harmoniser les formations et voire même de développer des examens d'évaluation des compétences des spécialistes au niveau européen.
On se posait la question de savoir si une accréditation par l'UEMS, donc pour un congrès qu'on organiserait en France, suffirait pour le faire valoir comme au DPC, quoi, pour valider les DPC des médecins qui assisteraient.
Vous allez me détester, mais je vais vous donner une réponse typique du système administratif que vous êtes en train de mettre en place, mais c'est à eux de le demander. Non, mais ce qui va arriver typiquement dans ce genre de cas, parce qu'on a le cas pour d'autres pays, c'est que l'accréditation que nous donnera sera valide pour tous les internationaux qui seront venus. Et donc, quand ils retourneront dans leur pays, ils pourront faire valoir les crédits. Et je pense que le plus gros problème sera pour les médecins français qui auront participé. Je sais, c'est absolument injuste. Mais c'est la situation qu'on rencontre dans certains autres pays, et je ne doute pas que ça puisse être le cas également en France. Parce que la plus grande difficulté qui se pose également, c'est que, en tout cas pour nous, vous n'avez pas de point d'entrée pour la reconnaissance des crédits. Et c'est là que, en tout cas pour l'UMS, nous verrions un intérêt à ce que vos travaux aboutissent.
Dans cette même faculté, lors d'une réunion député université qui s'appelait FMT Université à l'époque, elle est responsable au ministère et à la HAS du développement du concept de FMT et de PP, nous expliquait toute l'importance d'avoir des crédits et qui correspondent bien au système européen. Et donc ça nous situait autour de 2008. juste avant que la loi HPST introduise un système sans crédit, que le même, d'ailleurs, expert nous a déclaré être bien meilleur que le précédent, bien entendu, qu'il avait défendu un an avant. Donc malheureusement, enfin moi je fais partie de ceux qui regrettent, et je le dis très publiquement et sans aucune hésitation, qui regrettent, et même qui sont absolument atterrés, qu'on n'ait pas mis en place un système de crédit qui nous mette au même niveau que les autres Européens. Ça fait partie pour moi d'un des pires défauts du système mis en place en France récemment.
Le DPC s'applique pas uniquement aux médecins, mais aussi à d'autres professionnels de santé. Je voulais savoir si pour ces autres professionnels de santé, il existait au niveau européen une structure similaire à la vôtre, en fait.
Alors, pas encore. Mais on est en discussion avec certaines organisations professionnelles au niveau européen sur la possibilité d'étendre le système à ces professions-là, ou en tout cas de servir de modèle. On a déjà eu des discussions avec les infirmiers, les pharmaciens hospitaliers, les généralistes également. Maintenant, ce que l'on a tendance à dire, dans la mesure où la reconnaissance de l'accréditation est de la compétence de chaque autorité nationale, c'est que l'accréditation que l'on donne à un congrès, chaque participant, quelque part, la reçoit en recevant son certificat, mais ce participant, in fine, se tourne vers son autorité nationale, et il est arrivé, et il arrive dans un grand nombre de cas, que même des infirmiers, des techniciens, des sages-femmes assistant à des congrès de certaines spécialités, aient également ces certificats reconnus dans leur propre portfolio de revalidation. Donc, mais là, c'est vraiment une question de cas par cas.
Connaître l'ampleur de votre activité, quelle est la fraction de demande auprès de vous qui est faite au regard de l'ensemble, mettons, des manifestations, congrès ou... Donc
Alors,
c'est combien, 10%?
Non, pour l'instant, nous accréditons un nombre qui approche les 2000 événements par an. Mais ça, c'est le tout gros problème, c'est qu'on n'a aucune idée du nombre total d'événements qu'on peut qualifier de FMC-DPC au niveau européen, dans la mesure où, on en discutait tout à l'heure durant l'atelier, mais notre masse, le nombre d'événements que nous accréditons, est de l'ordre de 2000, avec un taux de rejet qui est de l'ordre de 10 à 15% et qui est en augmentation.
J'avais aussi une question à vous poser. Ça dépasse évidemment le cadre des responsabilités de l'UEMS et même de la Commission, mais enfin quand même. Il y a une reconnaissance mutuelle des diplômes de spécialistes au sein de l'Union européenne. Donc un cardiologue belge peut aller travailler en Grèce, un rhumatologue espagnol en Allemagne, etc. Bon, après, une fois arrivé dans ce pays, il va falloir qu'il s'inscrive, etc. Il y aura des questions de langue qui pourront intervenir, mais son diplôme est reconnu. Par contre, moi j'ai eu mon diplôme de spécialiste il y a un certain temps, et je n'ai fait strictement rien en termes de formation médicale continue et de DPC pendant toute cette période, et là, d'un seul coup, je vais aller travailler en Belgique. Alors, qu'est-ce que vous faites de mon cas ?
Alors, il n'y a rien dans le cadre de la directive qui peut interdire la Belgique de vous accepter. C'est aussi simple que ça. Donc, dans la mesure où vous étiez dans le système français, enregistré dans le système français, tant que vous avez répondu aux exigences du système français, bon, voilà, ça ne regarde pas la Belgique. C'est une situation qui est éminemment problématique. C'est une question que nous avions soulevée dans le cadre de la révision de la directive, dans nos activités plus politiques, au niveau de contact avec la Commission, le Parlement européen. Ça a été également le cas pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, par exemple. Donc on avait cité le cas précédemment d'un gynécologue qui se spécialise dans le cancer du sein dans le cadre de sa pratique professionnelle. S'il veut avoir le droit de se déplacer en Europe et d'avoir son diplôme reconnu, ce sera toujours son diplôme de gynécologue qui servira, même si ça fait 20 ans qu'il l'a obtenu.
Alors, je m'excuse de poser cette question, mais nous avions des questions. Je suis gynécologue médicale. C'est une spécialité franco-française en cours de stabilisation ou de disparition, ou on ne sait pas. Comment ça se passe pour nos jeunes internes qui prennent ce chemin-là et qui est une spécialité qui n'existe que en France, vont-ils avoir la possibilité d'exercer en Europe? Avec quelle instance faut-il discuter pour savoir ce qui peut se passer pour eux? Bon, c'est surtout à ceux qui sont en formation à l'heure actuelle.
Alors, dans le cadre de la directive sur la reconnaissance des qualifications, il y a deux mécanismes essentiels qui sont assurés. Le premier, c'est le droit à l'établissement, c'est-à-dire le droit d'aller s'installer dans un autre pays, de s'y inscrire et de pratiquer, et le droit à la mobilité temporaire. Donc les dispositions sont légèrement différentes de l'une à l'autre. Dans le cadre du droit à l'établissement, il y a un mécanisme pour ce qui concerne les spécialités reconnues, c'est la reconnaissance automatique. Donc là, j'imagine que dans le cadre de votre spécialité que vous mentionnez comme étant en disparition ou oui, dans une situation, on va dire, précaire, je ne suis pas sûr que vous bénéficiez de la reconnaissance automatique. Donc vous tombez dans un système alternatif qu'on appelle le système général, c'est-à-dire que le candidat doit venir avec son curriculum de formation, son diplôme, toutes les preuves de ses qualifications auprès de l'autorité nationale du pays dans lequel il souhaite s'établir. Et en général, tout ça doit être traduit dans la langue du pays. Donc ça a un certain coût aussi pour le professionnel. Et il recevra une reconnaissance au cas par cas en fonction de l'évaluation de son dossier. Il pourrait très bien lui être demandé de passer un nouveau test ou d'avoir, c'est ce qu'on appelle les mesures compensatoires, donc de travailler sous supervision ou de refaire une partie de formation, par exemple. Alors, dans le cadre de la mobilité temporaire, c'est légèrement différent dans la mesure où le professionnel doit simplement faire une déclaration préalable du service qu'il va aller prester dans cet État membre. Mais on parle de mobilité temporaire pour des services qui sont sur une durée réduite, même si cette durée est répétée. Bon, il ne faudrait pas que ce soit l'exemple d'un travailleur transfrontalier, mais c'est vraiment pour des cas, on va dire, ponctuels.
Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Rejoint un tout petit peu l'UMS, mais pas complètement, c'est sur le financement des congrès internationaux pour les hospitaliers. Autrement dit, actuellement, on fait cette demande auprès de la NFH, et il faut que ce congrès soit reconnu, si j'ai bien compris, par la société savante ad hoc française. Si j'ai bien compris. Alors, comment peut-on relier à l'UMS et comment sont les pratiques un peu partout dans les CHU?
J'ai peur que ce soit une question surtout franco-française. Dans le cadre du DPC, de son financement et des OPCA. Je ne sais pas si quelqu'un a plus de réponses. Bon, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que actuellement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais demandé à M. Destrebecq de venir, le financement. Dans le cadre du DPC, la place des congrès internationaux n'est pas claire. Elle n'est pas claire du tout et c'est pas évident. Maintenant, si vous voulez, on peut inclure dans un programme de DPC un congrès, pourquoi pas un congrès international, mais que ce soit accepté. Deux, les fiches de la HAS sur la participation à des congrès pour la reconnaissance du DPC n'intégrait pas jusqu'ici les congrès internationaux. La fiche qui parle des congrès n'intègre pas les congrès internationaux. Il y a un travail, on en a parlé lors de l'atelier que nous animions avec Claude Conry. Il y a un travail qui est fait au sein de la conférence des directeurs de CHU en France pour proposer à la HAS, qui est tout à fait favorable à cette réflexion, des modifications des fiches de façon à les rendre plus adaptables aux médecins salariés, notamment aux médecins hospitaliers et hospitaux universitaires, puisque les fiches avaient été faites peut-être pas spécialement pour eux, disons. Et en particulier, la question des congrès internationaux a été introduite. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a un certain flou. Mais peut-être vous aviez, madame, une expérience personnelle? Non. Voilà, c'est... Par contre, Ce que je pense, c'est que, ayant écouté M. Destrebecq, il me semble logique de dire que, en tout cas, dans le cadre européen, et après tout, on pourrait également inclure l'Amérique du Nord, puisqu'il y a des contrats entre l'UMS et le Canada et les États-Unis d'Amérique, il faudrait introduire ce critère, dire qu'un des critères serait que le Congrès soit accrédité par l'UMS ou les États-Unis ou le Canada. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Quelques mots de conclusion? Non, je ne vais pas conclure. Il me reste surtout à remercier M. Destrebecq qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir.
Merci à vous.